Le Sceau de la Drôme. 2h du matin en ce mois de novembre. La route est déserte. Les phares de la voiture éclairent le brouillard. Des arbres sans feuilles défilent lentement sur les côtés, deux par deux. Je décide de m'arrêter au Sceau de la Drôme. Là où le torrent grossi par les pluies chute sur de gros blocs calcaires, 10 mètres en contrebas. Je veux entendre le bruit de l'eau se fracassant sur les roches. Une envie comme cela, gratuite. Je ralentis et me gare sur le petit parking au gravier blanc. Je stoppe le moteur. La radio qui joue un blues, « Sitting on the top of the world », s'arrête. Le silence se fait, j'ouvre la portière, le grondement du torrent emplit la voiture. Je sors et je me dirige précautionneusement vers le pont, dans la pénombre. Mes deux mains s'agrippent à l'acier de la rambarde comme les serres de la buse. Au-dessous, une eau boueuse, éclairée par les pâles rayons de la lune, chute. Je devine des tourbillons, des remous, un tronc d'arbre déchiqueté plus bas en travers du courant, une aspiration d'air froid et de vapeur d'eau. Soudain, je perçois une absence, comme un trou dans l'espace qui se déplace et s'approche de moi inexorablement. Je me cramponne au parapet. Des phalanges froides se plaquent sur ma nuque. La mort se tient à mes côtés. De son bras droit, elle enlace ma taille. Nous regardons l'eau tous les deux. Elle m'attire. La mort se tait, son crâne lui. Ses phalanges se font lourdes. Son pouce saisit ma glotte. « Saute !» me dit-elle. « Je ne saute pas !» répond quand. « Saute ! Saute ! Saute !» Elle se penche de plus en plus. Ses côtes s'allongent au-dessus du vide. Son maxillaire inférieur s'abaisse, révélant des trous, là où il aurait dû y avoir des dents. Nous sautons tous les deux. Son fémur dans la chute se plaque contre ma cuisse. Mon regard plonge dans la caverne de son orbite. L'eau y tourbillonne, le froid m'envahit. Nous descendons dans l'abîme, nous tenant enlacés. La caverne s'agrandit, l'eau y tourne. Des milliers de squelettes y sont emportés par le courant. Clavicules, sternum, tibia et rotules emmêlés. Je sens les phalanges de la mort s'enfoncer dans mes chairs jusqu'à l'os. Brusquement, j'émerge de mon songe. Ce n'était qu'un songe. Épouvanté cependant, je retourne à ma voiture en trébuchant, ouvre la portière et mets le contact. Comme une belle mécanique, le moteur ronronne. La radio revient sur un air de rock'n'roll. Et moi aussi, je reviens vers la vie. J'embraye, dépasse le pont et, pris soudain d'un doute, m'arrête à nouveau et me retourne. Elle est toujours là, négligemment accoudée au parapet. Le vent a enroulé sa longue écharpe blanche autour de son bassin. Elle me regarde et son rire édenté claque dans le vent. « À bientôt, j'espère, » dit-elle. Castor et Folux. Deux histoires vraies, vécues. La première histoire, c'est pour vous faire rire. La deuxième, c'est pour vous faire frémir. Commençons par celle pour vous faire rire, dont le titre est « Tirer sur ma queue, ça va pas la tête ». Je sais que ce petit ruisseau, affluent secret de la Drôme, situé au fond d'une gorge, est difficile à explorer. Je décide cependant de le remonter en partant de son embouchure afin de capturer quelques truites. Je progresse pas à pas avec précaution, le sécateur dans la main gauche et la canne à pêche dans la main droite. Il faut constamment se pencher, couper des ronces agressives qui barrent entièrement le chemin. J'admire le fond presque orange de ce ruisseau incrustant, où le calcaire se dépose en moulant feuilles et racines. Il y a des carex géants, des prêles aux élégantes symétries éclairées par le soleil, les lancers de l'appât, une cuillère argentée, un numéro de un point rouge, super déclencheur des attaques de truites sont problématiques, incertains quant à leurs résultats, malgré mon effort de précision par la technique du balancer sous le bras. Mais il y a des truites, quand j'en capture une petite que je remets à l'eau, je ne garde que celle qui dépasse la maille de 23 cm. De loin, j'entrevois un trou plus profond, meilleur espoir pour capturer une belle truite. J'écarte les ronces et m'apprête à faire un subtil lancer, et soudain, me fiche sur place. À 1 mètre de moi, à peine, immergé, je vois très distinctement deux grosses pattes palmées et une grande queue plate à écailles. Tête et pattes antérieures sont invisibles, cachées dans les profondeurs. Et voilà que la queue écailleuse sort de l'eau. Vraiment, c'est irrésistible. J'approche ma main et tire sur cette queue étonnamment rugueuse. Je sens une résistance. Je m'arrête de tirer. Je prends mon appareil photo pour faire quelques clichés. À nouveau, l'envie me prend irrésistiblement de tirer sur cette queue incongrue. Je le fais, mais elle bouge et m'échappe. Dans un grand remous, le castor émerge soudainement 2 mètres plus loin, vire sur sa gauche en tapant violemment l'eau avec sa queue, c'est son signal d'alarme, il est furieux. Et je suis sûr qu'il pense « Tirez sur ma queue, ça va pas à la tête !» Mais comprenez-moi, une queue de castor que vous pouvez palper, c'est vraiment, vraiment, vraiment irrésistible. Pardonne-moi, castor, de t'avoir donné la frousse de ta vie. Venons-en maintenant à l'histoire pour vous faire frémir. Son titre est « Me trouer la peau, ça va pas la tête ». Moi, le castor du ruisseau des Bois-Dents, j'aime bien mon ruisseau. Vous savez, c'est le ruisseau qui se trouve sur la commune de Minglon, qui prend sa source vers les Taillas, passe au Galant et au Biala. J'aime bien ses saules et ce peuplier dont je ronge l'écorce, ses carex et ses joncs que je consomme, car je suis végan, végétalien strict. Je le connais par cœur, ce ruisseau. Bien sûr, je construis des barrages, car je suis l'architecte ingénieur des rivières. J'entrecroise des branches taillées en biseau, je colmate les trous côté amont avec mes pattes, je l'alourdis par des galets. Mes barrages sont des œuvres d'art. Vous savez, il n'y a pas que les hommes qui font des œuvres d'art, les castors aussi. Eh bien, ces hommes, un jour, ils sont venus, ils ont détruit mon barrage. Je dis « ils » car ils me sont inconnus. Mais un de mes cousins castors m'a dit « je les connais, c'est le gang de la DDT ». Ils disent que mon barrage perturbe l'écoulement de l'eau, qu'il est dangereux, qu'il accentue la pollution, mais tout cela est archi-faux, archi-faux. De plus, il y a une loi de ces mêmes hommes qui interdit de détruire les barrages de castors, ou alors il faut un papier signé du préfet. Et celui-ci doit saisir le Conseil national de protection de la nature. Or, le préfet n'a rien signé, à ma connaissance, de Castor. La décision de destruction est illégale. La procédure n'a pas été respectée, foi de Castor juriste. Vous savez, les retenues d'eau que créent mes barrages sont favorables aux libellules, aux grenouilles, aux poissons, aux écrevisses à pattes blanches. Des joncs, des typhas, des renoncules d'eau, des mantes aquatiques, des potamos, des cornifles, des myriophiles et des élodés prospèrent dans les zones humides que je crée. À coup sûr, je favorise la biodiversité. Je suis un écolo animal qui favorise votre tourisme et celui-ci vous rapporte des sous. En témoigne le marais des Bouligons et la future zone humide valorisée des Nailles de Saint-Romand, construite par mes cousins germains, dont Totor, la paluche, le plus actif. Mais il y a pire que la destruction de mon barrage. Je le vois bien, je le voyais bien que celui-là, il avait l'air bizarre. Il rôdait toujours le soir le long de mon ruisseau. Je l'appelais Folux. Eh bien, un jour, il m'a repéré, il a sorti sa carabine et il m'a troué la peau. Oui, vous lisez bien, vous entendez bien. Il m'a troué la peau, il m'a plombé, il m'a tué. Cela a été constaté par une vétérinaire. C'est un homme, ce plombeur, c'est sûr. Jamais une femme n'aurait sorti une carabine pour me plomber. Ce n'est pas un étranger non plus. Les étrangers ne se baladent pas avec des carabines à plomb. Et ils ne savent même pas qu'il y a des castors dans le Diois. Bien sûr, il m'a assassiné à la tombée de la nuit. Il ne l'a dit à personne, sauf peut-être à sa femme. Je suis une espèce protégée, depuis 1965. S'il avait été pris sur le fait, cela lui aurait coûté au minimum 1 500 euros avec comparution en justice. D'ailleurs, mes défenseurs sapiens, car j'en ai, ont porté plainte contre lui. Commune de Minglon, vous êtes la seule commune du canton où on plombe les castors. Je sais, monsieur le maire, que vous en êtes désolé. C'est vraiment dommage pour le prestige de votre commune. Canton de Châtillon-du-Bois, vous êtes le seul canton du département où on plombe les castors. Je sais, monsieur le chef cantonnier, que vous en êtes désolé. Département de la Drôme, vous êtes le seul département de France où on plombe les castors. Je sais, monsieur le préfet, que vous en êtes désolé. France, vous êtes le seul État de l'Europe unie où on plombe les castors. Je sais, monsieur le président Hollande et madame la ministre royale, que vous en êtes désolé. Je suis une espèce intelligente, apparue il y a 30 millions d'années, bien avant vous, les sapiens, qui ne datez que de 200 000 ans. En avance sur vous, j'ai inventé l'art des barrages. Aucun homme n'a le droit de me tuer. D'ailleurs, vous savez, vous aussi, les hommes, vous devriez être une espèce protégée, avec une loi mondiale qui vous protège et vous interdise de vous entretuer. Jamais les castors ne s'entretuent, eux. Parole de Castor plombé.